Je suis Paulette Kaiser, vous avez peut-être plus de nom sur le site, j'ai travaillé sur Lévinas, qui m'a toujours passionné. J'ai fait une thèse sur lui, j'enseigne la philosophie allemande à des élèves handicapés à Toulouse-Lautrec, à Vaucresson. Et voilà, je ne sais pas ce que je pourrais en dire plus. Je n'ai pas annoncé mes propres publications, je trouve ça un peu débile, donc je ne vais pas les annoncer. Donc, si vous voulez les connaître, vous les trouverez sur Internet. Voilà. On avait fait une première séance parce que je vois des visages que je n'ai pas vus avant. Donc d'abord, merci d'être venu. Est-ce que je vous fais le coup de la bonne année? Oui, bonne année. On a parlé longuement l'autre jour, c'est-à-dire le 19 décembre, sur l'hospitalité chez Manuel Lévinas. Je vais répéter certains points, mais pas tous. On avait dit qu'elle était cruciale dans son œuvre, que c'est probablement le précurseur d'une hospitalité qui dépasse le pur juridique, hein, une hospitalité qui serait inconditionnelle, absolue et, dans un certain sens, excessive, parce qu'elle peut aussi tomber dans son contraire, c'est-à-dire dans la persécution. Le résultat qu'on a eu l'autre jour, c'était vraiment de dire qu'une hospitalité n'est pas pensable si elle ne prend pas ce risque-là. Si elle est purement juridique, il ne s'agit pas d'une hospitalité, parce qu'on demande à celui qu'on accueille des comptes à rendre. Pour Lévinas, donc, elle est absolue. On l'avait thématisé, abordé dans des œuvres comme Totalité infinie, mais aussi autrement qu'être, où il y a un changement décisif au niveau du sujet, qui est dans Totalité infinie reçu dans la demeure par un être féminin. Et c'est ça la condition de l'hospitalité. Il peut seulement devenir hospitalier parce qu'il est reçu déjà lui-même. Et dans Autrement qu'être, le sujet lui-même devient l'incarnation de l'hospitalité par le biais de la maternité. Hein, on était arrivé là et aujourd'hui on voulait aborder plus précisément le féminin dans l'œuvre, qui ne se réduit pas à l'hospitalité pure. J'ai appelé cette conférence « Offrir la pomme » et « Hospitalité du féminin ». Offrir la pomme, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui dépasse bien sûr la pure hospitalité. Le féminin chez Lévinas est forcément déjà quelque chose d'ambivalent. On peut dire que c'est grâce à Lévinas qu'il y a eu un déplacement significatif aussi bien de l'hospitalité que de la différence sexuelle, parce qu'elle occupe une place privilégiée dans toute l'œuvre. Et elle représente une force motrice de sa pensée. Ça, c'est très rare dans la tradition philosophique. Pas du tout parce que personne n'en aurait parlé. Hein. La philosophie s'occupe très souvent de la différence sexuelle. Mais ce qui est nouveau chez Lévinas, c'est qu'il reconnaît que le sujet est masculin. Hein. Le sujet n'est pas neutre, il est masculin, il assume ce rôle masculin. Ça, c'est rare dans la tradition philosophique parce que la philosophie est représentée plutôt comme une affaire d'hommes, lesquels, dans la mesure où ils croient devoir se préoccuper d'affaires sérieuses, cherchent à garantir et à fixer le sens de toute chose en faisant leur objet. Ils espèrent éviter de telle sorte généralement en vain les terrains glissants ornés d'histoires de bonnes femmes. Pour Lévinas, il est vrai qu'il a toujours préféré l'ombre à la lumière. Et on avait dit aussi l'autre jour que toute l'œuvre se situe aux confins de la philosophie. On sait que Lévinas était aussi un grand talmudiste et que les philosophes lui ont reproché son côté religieux, alors que les religieux lui ont reproché son côté phénoménologique. Donc il a toujours été entre deux chaises. La préoccupation de Lévinas, c'est de faire dire à la philosophie ce qu'elle omet de dire. Donc les choses qui seraient au-delà du savoir. Dans un passage surprenant qu'il a écrit en 1960, Lévinas décrit l'esprit masculin et son mode de la manière suivante. Citation. « Ce monde, où la raison se reconnaît de plus en plus n'est pas habitable. Il est dur et froid, comme ces dépôts où s'entassent des marchandises qui ne peuvent satisfaire ni vêtir ceux qui sont nus, ni nourrir ceux qui ont faim. Il est impersonnel, comme les hangars d'usines et les cités industrielles où les choses fabriquées restent abstraites. Vraies de vérités chiffrables et emportées dans les circuits anonymes de l'économie, procédant de savantes planifications qui ne peuvent empêcher mais préparent des désastres. Le voilà l'esprit dans son essence masculine qui vit au dehors, exposé au soleil violent qui aveugle au vent du large qui le batte et l'abatte, sur une terre sans repli, dépaysée, solitaire et errant, et déjà par la même aliénée par les choses produites qu'il avait suscitées et qui se dressent indomptées et hostiles. Bon, cette situation est actuelle, tout plein d'événements de nos jours nous le montrent, que ce soit des catastrophes écologiques, des désastres politiques. On avait parlé l'autre jour des sans-papiers. On ne saurait pas assez insister sur cette triste actualité, surtout dans le contexte de notre soi-disant mondialisation, qui est impliquée dans un processus de destruction de cette planète. Menaces guerrières, guerres, xénophobie, racisme, misogynie, enfin la liste est très longue. Rediscussion de la peine de mort, rediscussion du colonialisme, bon, on ne va pas mettre tout cela au même niveau. Mais ça a la même racine. Donc cette éradication d'autres ne se limite pas seulement à l'humain, mais comprend aussi l'animal et le végétal. La troisième conférence portera justement sur Lévinas et l'animal, ou plutôt l'animalité. Bon, l'enjeu de Lévinas consiste à aborder un autre qui ne soit pas réduit au même, à accueillir l'étranger dans une hospitalité infinie, qui ne serait pas de l'ordre d'un savoir ou d'un vouloir, mais de celui de l'exposition et d'un accueil précédant toute décision. Donc ce n'est pas une histoire de décision, ce n'est pas une histoire de liberté. Cette notion d'hospitalité infinie s'avère cruciale dans le monde actuel des réfugiés, des sans-logis, des sans-papiers, des sans-patrie, etc. Bon, à cet égard, et ça aussi, là je répète un peu ce qu'on avait fait l'autre jour, Lévinas est le précurseur de penseurs qui, malgré toutes les différences qui les séparent, ont été ou semblent toujours préoccupés par le souci d'une hospitalité inconditionnelle. Je pense à des gens comme Derrida ou René Scherrer, Jean-Luc Nancy, parmi tant d'autres. Dans Totalité infinie, Lévinas écrit que le concept de totalité est celui qui domine la philosophie occidentale. Il interprète cette histoire de la philosophie comme tentative de synthèse universelle dans une totalité déchiffrable par la conscience. Ainsi, la philosophie occidentale aurait le plus souvent été une réduction de l'autre au même. Cette philosophie du même aurait horreur de l'altérité qui demeure autre, serait allergique à ce qui est différent et étranger, et suivrait une pratique impérialiste, c'est-à-dire une pratique d'effacement de ce qui se refuserait à la transparence du concept. Lévinas répudie l'égocentrisme pour donner la priorité à l'autre, précédant toujours le moi, disloquant ainsi la métaphysique de la représentation et désistant radicalement le sujet philosophique. Contrairement à Lacan, il ne le divise pas, ou à Derrida, il ne le déconstruit pas, il le désiste complètement, il destitue. Ainsi, Lévinas interrompt la tradition philosophique à un point décisif, celui de l'apparente neutralité du sujet philosophique. Bien qu'on ait parfois faim d'effacer sa marque sexuelle, celui-ci a toujours été l'homme et connoté au masculin, c'est-à-dire réduit à la représentation du pouvoir, du savoir et de la maîtrise. Je dis bien à la représentation. La pensée de Lévinas est une prise en compte du fait que les êtres humains sont sexués. Il écrit, citation, « J'accède à l'altérité d'autrui à partir de la société que j'entretiens avec lui et non pas en quittant cette relation pour réfléchir sur ses termes. » La sexualité fournit l'exemple de cette relation accomplie avant d'être réfléchie. L'autre sexe est une altérité portée par un être comme essence et non pas comme l'envers de son identité. Mais elle ne saurait frapper un moi asexué. Autrui comme maître peut nous servir aussi d'exemple d'une altérité qui n'est pas seulement par rapport à moi, qui appartient à l'essence de l'autre, n'est cependant visible qu'à partir d'un moi. Le fait qu'il signe sa position masculine nous indique qu'il reconnaît qu'il y en a d'autres, que la position masculine n'est pas la seule, que l'homme n'est pas tout. On peut penser notamment au tout de Lacan, bien que Lévinas ne soit pas du tout un ami de la psychanalyse, que l'homme est sexué et que ce fait est important et décisif car il représente la condition de l'affect, du sentiment et de la pensée. Lévinas pose une question cruciale. Y a-t-il dans l'homme une autre maîtrise que cette virilité, que ce pouvoir de saisir le possible? Tout l'effort de ce penseur consisterait à aborder et à décrire ce qui résiste au pouvoir du sujet, ce qui échappe à sa maîtrise. Lévinas avance trois situations décisives: la mort comme insaisissable, le commandement du visage de l'autre précédant toujours le moi, le féminin comme mystère tout autre qui déporte le sujet, c'est-à-dire le moi dans un no man's land, et le rend étranger à lui-même. Selon Lévinas, le féminin serait l'altérité pure, l'autre par excellence. Il souhaite par là désigner une altérité qui n'entre pas purement et simplement dans l'opposition de deux espèces du même genre. Dans ses premiers écrits, c'est-à-dire dans l'existence, l'existant et dans le temps et l'autre, et notamment totalité infinie, le féminin figure comme le tout autre, renvoyant à une différence irrécupérable, différence des différences. Le sujet est le moi face au féminin, le même face à l'autre, ou encore le sujet en tant qu'hôte. À partir d'une autre œuvre, c'est-à-dire autrement qu'être, ou au-delà de l'essence, la notion du féminin disparaît dans les écrits philosophiques alors qu'elle est rediscutée dans les commentaires talmudiques. Mais l'altérité sexuelle continue à inquiéter ces écrits philosophiques. Ainsi, dans autrement qu'être, ou au-delà de l'essence, la subjectivité porte-t-elle des traits féminins? L'autre dans le même, un sujet en rupture d'essence, otage. Bon, je vais retracer le développement qui suit la différence sexuelle dans ses écrits, et je vais aussi essayer de souligner les étapes essentielles qui témoignent d'un long cheminement et de nombreux déplacements. Premier point, c'est le sujet vir face au féminin. Lévinas propose une nouvelle définition de la différence sexuelle. Dans le temps et l'autre, il a décrit comme, citation, une structure formelle qui découpe la réalité dans un autre sens et conditionne la possibilité même de la réalité comme multiple, contre l'unité de l'être proclamée par Parménide. Citation fin. Selon Lévinas, la différence sexuelle n'est ni une différence spécifique quelconque, ni une dualité de deux termes complémentaires. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'elle est tout de suite asymétrique et non réciproque. Elle n'est pas non plus une contradiction ou une opposition, mais une dualité insurmontable. D'emblée, Lévinas se situe dans la perspective de l'homme, signe sa position en tant que tel, puisqu'il conçoit le rapport entre les sexes comme un rapport moi-tu, le moi désignant l'homme et le tu la femme. Ce rapport s'avère asymétrique à la rencontre avec le féminin, ne donne pas lieu à une fusion. Il n'y a pas de communion des amants, mais seulement de l'incomparable. Ça, c'est assez anti-platonicien, il n'y a pas de fusion. La pensée de Lévinas conteste d'ailleurs toute fusion, toute communauté basée sur la réciprocité. Dans ce rapport, donc dans le rapport sexuel, l'altérité du tu resterait irréductible. Ça aussi serait intéressant à comparer à Lacan, ce que nous n'allons pas faire ici, mais selon Lacan, il n'y a pas non plus de rapport sexuel fusionnel. L'amour comme rapport impossible, hors communion et hors fusion, consisterait alors en le geste de donner ce que l'on n'a pas, c'est-à-dire soi-même. Donc l'amour sans retour à l'un. Cette absence de fusion ne serait pourtant pas regrettable, mais représenterait plutôt une chance. Le pathétique de l'amour consiste dans une dualité insurmontable des êtres, écrit Lévinas. La symétrie dans les rapports entre le moi et le toi n'invite pas à la nostalgie, puisqu'il ne s'agit pas d'une perte. Le retour du deux à l'un s'avère impossible. Il ne s'agit même pas d'un retour, ni d'une division, car Lévinas rejette toute unité préalable. L'amour n'est donc jamais réciproque, car chacun aime différemment. Ce que je cherche dans autrui n'est pas mon alter ego, mais l'autre comme altérité irréductible. Ce que j'aime en lui est justement ce qui le diffère de moi. Tandis que la virilité représenterait la figure du même, la féminité serait une différence tranchant sur les différences, non seulement comme une qualité différente de toutes les qualités, mais comme qualité même de la différence. Alors que l'existence s'accomplit dans le subjectif et dans la conscience, l'altérité s'accomplit dans le féminin. Alors, l'existence est donc forcément l'homme. S'accomplit dans le subjectif, dans la conscience. Conscience pour l'homme. L'altérité dans le féminin. Alors tout ça, c'est le temps et l'autre, c'est aussi totalité infinie. Pour autrement qu'être, ça va changer. Donc le mouvement du féminin consisterait à se retirer ailleurs. Lévinas insiste sur l'ambivalence du féminin, comme demeure, on en avait parlé l'autre jour, c'est-à-dire celle qui accueille le sujet économique à la maison. Comme demeure le féminin représente l'abri, le lieu de repos, le recueillement du sujet, lui permettant de regagner des forces pour affronter la vie économique et ses calvaires. Or, le féminin change de visage lorsqu'il devient féminin érotique. Il devient carrément menaçant. Car l'altérité féminine est l'équivocité même. Citation. La simultanéité ou l'équivoque de cette fragilité et de ce poids de non-signifiance, plus lourd que le poids du réel informe, nous l'appelons féminin. L'habitante avant tout habitant, nous avons vu à la conférence précédente, en nous référant justement à Derrida, que Totalité infinie était un immense traité de l'hospitalité dans lequel Lévinas établit une corrélation entre le féminin, la femme et l'hospitalité. Parmi les diverses figures du féminin qui traversent ses écrits, celle de l'hospitalité occupe un rôle primordial. C'est dans la demeure que l'élan de la jouissance se convertit en calme. Le sujet se recueille dans la demeure imprégnée d'intimité féminine. Lévinas écrit « L'autre dans la présence est discrètement une absence » et à partir de laquelle s'accomplit l'accueil hospitalier, par excellence, qui décrit le champ de l'intimité et la femme. Femme avec majuscule. La femme est la condition du recueillement, de l'intériorité de la maison et de l'habitation. Citation fin. La femme ouvre la condition de l'intériorité, donnant ainsi lieu à une défaillance délicieuse dans l'être. Si la relation avec autrui présuppose généralement la parole, la relation avec la femme se situerait à un autre niveau. Langage sans enseignement, langage silencieux, entente sans mots, expression dans le secret. Ainsi, l'habitation ne serait pas encore la transcendance du langage. Le statut de l'être féminin est d'emblée ambivalent. La femme est en quelque sorte la garante de sécurité du sujet et offre la possibilité de communication avec autrui et avec un monde à posséder. Elle sert de base au sujet économique. Mais elle-même est en quelque sorte dépourvue de langage, dépourvue de monde. Sa position est paradoxale. Elle est une présence-absence qui ne se situe jamais dans le présent, mais dans un trop tôt ou un trop tard. Elle partage ça avec l'animal. D'une certaine manière, elle est primaire, représente en tant que telle la condition fondamentale de la propriété. Ça, elle ne partage pas avec l'animal. La maison qui fonde la possession n'est pas possession dans le même sens que les choses meubles qu'elle peut recueillir et garder. Elle est possédée parce qu'elle est d'ores et déjà hospitalière à son propriétaire. Ce qui nous renvoie à son intériorité essentielle et à l'habitant qui l'habite avant tout habitant, à l'accueillant par excellence, à l'accueillant en soi, à l'être féminin. L'accueil absolu, à la fois originaire et préoriginaire, est féminin. Son lieu est inappropriable. L'accueil féminin représenterait l'origine anarchique de l'éthique, alors anarchique sans arché, sans origine, De ce point de vue-là, le féminin serait donc primaire. Cela rend déjà le statut du sujet paradoxal. Le moi comme propriétaire de la maison n'est certes pas exempt de maîtrise, mais la possession n'est pas entière. Son autonomie est fragmentaire. Son lieu est déjà occupé avant de représenter son chez lui. Il est donc chez lui dans la mesure où il est chez une autre, seulement chez lui à condition d'être chez cette autre. Pour être propriétaire, il faudrait toujours d'abord avoir été reçu. Le maître de la maison ne peut pas se l'approprier. Pour demeurer, il doit d'abord trouver asile. Avant de pouvoir inviter des autres, il doit d'abord se faire inviter chez lui. Cette préséance du féminin s'avère d'ailleurs bien relative, car le rapport avec la femme est en même temps secondaire, ou en tout cas pas toujours à la hauteur, puisque Lévinas écrit « Autrui qui accueille dans l'intimité n'est pas le vous du visage, qui se révèle dans une dimension de hauteur, mais précisément le tu de la familiarité. » Selon Lévinas, l'être féminin ne se limiterait pas à la pudeur, la douceur et l'accueil, mais il serait également indécence, raillerie, animalité, irresponsabilité lorsqu'il est question du féminin érotique. L'altérité féminine serait en quelque sorte la condition de l'éthique, et pourtant, elle n'en ferait pas encore partie. Il sera toujours trop tôt ou trop tard pour elle pour y accéder. Nous avons parlé la dernière fois du visage. Cette fois-ci, nous parlerons du visage sexué, ou plutôt des visages sexués. Lévinas est souvent connu et méconnu comme penseur de l'éthique. Ainsi, lui est-il arrivé d'objecter qu'il n'était pas l'inventeur de l'éthique, mais qu'il cherchait son sens. Il s'agit en fait de la recherche d'une ouverture éthique qu'il faut distinguer de toute norme et de toute généralisation. Car, écrit Lévinas, je suis responsable d'autrui sans attendre la réciproque. Utilement coûter la vie. La réciproque, c'est son affaire. Hein, donc, il n'y a pas d'impératif catégorique conscient chez Lévinas. Ainsi, l'éthique ne produit ni loi juridique, ni règles de conduite, puisqu'on ne peut pas la généraliser à partir d'un impératif, tel que, par exemple, l'impératif conscient. L'éthique m'engage moi, mais pas le moi, au sens d'un nous ou d'autrui. La seule règle qu'elle contient est la préséance de l'autre. Pourtant, c'est à partir de cette hyperéthique, de cette exigence excessive sans origine, que la politique et la morale peuvent et doivent être mises en question. Cette éthique est liée au visage de l'autre qui se refuse à la possession et au pouvoir du moi. Le visage de l'autre n'est pas appropriable, n'est pas un phénomène et reste infiniment étranger. Citation, le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. Et en même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. À cet égard, il est important de constater que le commandement éthique, tu ne tueras point, conduit à une résistance éthique et non à une résistance réelle à la tentative de tuer autrui. Sinon, on n'aurait plus de problème. Le visage est donc pensé à partir de la possibilité du meurtre, il est forcément lié à la parole. La relation avec ce visage est une relation entre moi et vous, exigeant une responsabilité unilatérale, car, je le répète, il n'est pas exigé du tout qu'autrui soit responsable de moi. Dans totalité infinie, le visage ouvre le discours. Pourtant, il y a un au-delà du visage. Un autre visage qui cesserait d'exprimer l'infini de l'éthique. Il s'agit du visage féminin comme visage érotique. Bien que la relation érotique représente une expérience essentielle dans la totalité infinie, dans la mesure où c'est elle qui rend possible l'avenir fécond, le visage féminin serait inquiétant puisqu'il risquerait de faire basculer l'ordre éthique. Le féminin érotique ouvre l'éthique étant donné son rôle dans l'événement de la fécondité, mais du reste, il la dérange. Citation. Le féminin ouvre un visage qui va au-delà du visage. Le visage de l'aimé n'exprime pas le secret qu'Eros profane. Il cesse d'exprimer, ou, si l'on préfère, il n'exprime que ce refus d'exprimer, que cette fin du discours et de la décence. Dans le visage féminin, la pureté de l'expression trouble déjà par l'équivoque du voluptueux. L'expression s'avertit en un des sens, déjà toute proche de l'équivoque qui dit, moins que rien, déjà rire et raillerie. Citation fin. L'aimer a un statut particulier qui est celui de la dissimulation ou de la réfraction, attirante et repoussante à la fois, elle semble incarner un danger. Car si, dans l'optique léménacienne, autrui tout court ressemble généralement à Dieu, l'aimer féminine ressemble à la fois à Dieu et au diable. Et la peur que la femme érotique éveille ne va pas s'en rappeler la peur que Dieu et diable infligent. La féminité apparaît donc comme secondaire et primaire à la fois. Secondaire qu'elle est aussi bien faiblesse que domination, hors langage, risque de profanation, de renversement. Lévinas décrit le lien entre l'éros et la mort comme l'alignation du moi viril, c'est-à-dire du sujet, du pouvoir et de la possession. Il écrit « Tout comme pour la mort, ce n'est pas un existant que nous avons à faire, mais à l'événement de l'altérité, de l'alignation. Et c'est pourquoi nous avons cherché cette altérité dans la relation absolument originale de l'éros. Relation qu'il est impossible de traduire en pouvoir et qu'il ne faut pas traduire ainsi si on ne veut pas fausser le sens de la situation. » Citation fin. Cette alignation est, toujours dans une vision masculine, aussi traumatisante que celle de la mort. Mais paradoxalement, c'est justement grâce à elle que la mort est évitée, étant donné qu'elle donne lieu à l'affiliation et à la transsubstantiation. Ainsi, nous pouvons avancer que la féminité s'avère dans un certain sens primaire, car l'altérité sexuelle représente la condition d'un recommencement infini d'une merveille pour le sujet. Et pourtant, dans un autre sens, la féminité est à nouveau secondarisée, car la filiation est centrée sur la relation père-fils. La sœur, la fille, ainsi que toute la filiation féminine, semblent a priori être les grandes absentes, voire exclues. Mon troisième point, c'est l'intentionnalité de la caresse. Dans le chapitre « La féminologie de l'éros », qui est un chapitre crucial dans « Totalité infinie », la caresse représente une notion cruciale qui traverserait d'ailleurs l'ensemble de la philosophie de Lévinas. La caresse permet de rencontrer l'altérité sans pour autant la maîtriser, car elle s'alimente de fins innombrables, mais ne peut rien saisir ou posséder. Lévinas entend par intentionnalité de la caresse une intentionnalité qui n'appartiendrait pas au monde de la conscience. Il écrit « La caresse comme le contact est sensibilité ». Mais la caresse transcende le sensible. La caresse consiste à ne se saisir de rien, à solliciter ce qui s'échappe sans cesse de sa forme vers un avenir, jamais assez à venir, à solliciter ce qui se dérobe comme s'il n'était pas encore. Elle cherche, elle fouille. Ce n'est pas une intentionnalité de dévoilement, mais de recherche. Marche à l'invisible. Dans un certain sens, elle exprime l'amour, mais souffre d'une incapacité de le dire. Fin. La caresse représente le modèle pour la recherche du temps comme avenir et espoir. Dans Totalité infinie, la volupté est décrite comme ce qui ouvre une relation à la fois exceptionnelle et paradoxale. D'une part, la relation érotique, désignée comme relation moi-tu ou société à deux, échappe à l'idéal de la communauté fusionnelle des camarades, encore trop héroïque, qui, en quête d'une vie éternelle, refoulent aussi bien leur mortalité que l'altérité sexuelle. Ça, c'est la société des camarades. C'est par là que la société à deux introduit des nouvelles possibilités et horizons concernant l'avenir, comme par exemple la fécondité, laquelle est décrite, et cela peut surprendre en premier lieu, comme qualité paternelle. Il n'est ni question de la mère, ni de la fille. Ainsi, l'avenir promis par l'éros renvoie en premier lieu à la relation entre le père et le fils, qui est selon Lévinas la relation avec un non-moi qui est encore moi. Hein? Alors nous savons que le moi c'est l'homme, mais qui est-elle? L'amour érotique du sujet vise autrui, mais pas n'importe quel autrui. Lévinas précise « Aimer c'est craindre pour autrui, porter secours à sa faiblesse ». Comme dans l'horreur s'élève l'aimé qui est aimé. Épiphanie de l'aimé, le féminin ne vient pas s'ajouter à l'objet et au toi, préalablement donné ou rencontré au neutre, le seul genre que la logique formelle connaisse. L'épiphanie de l'aimé ne fait qu'avec son régime de tendre. La manière du tendre consiste en une fragilité extrême, en une vulnérabilité. Dans ce passage, les connotations du féminin restent d'une part classiques, c'est-à-dire associées à la faiblesse et la vulnérabilité. Cependant, cette faiblesse d'aimer n'est pas conçue comme une déficience, n'exclut pas une autre force, mais qualifierait l'altérité même. Le fait que Lévinas ne réduise pas le féminin à un supplément ou complément du sujet substance marque une rupture avec les attributions traditionnelles, dans la mesure où Lévinas le définit comme non totalisable, altérité irréductible se dérobant toujours. C'est-à-dire, on ne peut pas se l'approprier. Donc il écrit, la caresse vise le tendre qui n'a plus de statut d'un étant, qui sorti des nombres et des êtres n'aime même pas la qualité d'un étant. Le tendre désigne une manière, la manière de se tenir dans le no man's land. Ce no man's land désignerait un statut entre l'être et ne pas encore être. Il s'agit d'un pays qui se refuse à toute possession et propriété du sujet. Le féminin ne renvoie ni à un sujet ni à un objet, car il se manifesterait sur la limite de l'être et du ne pas être. N'oublions pas que le féminin, comme le tout autre, peut uniquement être considéré comme l'autre par excellence dans une perspective masculine. Lévinas tente d'écrire à partir du moi une altérité qui commande la relation érotique à la fois comme faiblesse et comme maîtrise. Elle décrit un aspect du féminin qui conduit à une transformation du sujet de l'appropriation qui vient de se recueillir dans la demeure. Car la relation érotique le dépossède, le transforme et comporte des risques et des menaces, mais aussi des chances et devenir fructueux. Elle quitte le terrain de l'identité figée et ouvre le domaine d'une multiplicité permettant au moi de devenir différent à soi. Lévinas précise, citation, le sujet dans la volupté se retrouve comme le soi, ce qui ne veut pas dire l'objet ou le thème d'un autre, et non pas seulement comme le soi de soi-même. La relation avec le charnel fait précisément incessamment ressurgir le soi. Le trouble du sujet ne s'assume pas par sa maîtrise du sujet, mais par son attendrissement, son effémination, dont le moi héroïque et viril se souviendra comme d'une de ces choses qui tranchent sur les choses sérieuses. Il y a dans la relation érotique un retournement caractéristique de la subjectivité, issu de la position « retournement du moi viril et héroïque » qui arrêtait en se posant l'anonymat de l'Ilia et déterminait un mode d'existence ouvrant la lumière. Citation fin. La relation érotique entraîne donc une interruption, un arrêt de l'identification du sujet, une halte que Lévinas désigne comme libération du moi. D'autre part, tel que le montre le visage féminin, celui-ci est d'ailleurs irréductible à la faiblesse et à la soumission, et peut à certains moments représenter une puissance angoissante, une force dérangeante. C'est alors que l'altérité féminine est dotée d'attributs virils pour ou contre l'homme. Ainsi peut-on constater que ce renversement des catégories, ce retournement, ne concerne pas seulement le sujet, mais également l'altérité féminine. Lévinas écrit par exemple « La nudité érotique est comme une signification à rebours, une signification qui signifie à faux, une expression qui sombre dans l'équivoque du silence, parole qui dit non pas un sens, mais l'exhibition. C'est là la lascivité même de la nudité érotique. Le rire qui fuse dans les réunions shakespeariennes de sorcières, plein de sous-entendus, et par là la décence de parole. Le féminin érotique semble être plus proche de la sorcière et de l'animal que de l'homme, comme s'il comportait une part non humaine, menaçante. C'est une autre citation sur le rapport entre le féminin et l'animal. Je vais longuement en parler la prochaine fois. Pour l'instant, je vais juste l'annoncer. L'aimer ne s'oppose pas à moi comme une volonté en lutte avec la mienne ou comme soumise à la mienne, mais au contraire, comme une animalité irresponsable qui ne dit pas de vraies paroles. L'aimer revenu au rang de l'enfance, sans responsabilité, cette tête coquette, cette jeunesse, cette pure vie un peu bête, a quitté son statut de personne. Le visage s'émousse et dans la neutralité impersonnelle et inexpressive se prolonge avec ambiguïté en animalité. Les relations avec autrui se jouent, on joue avec lui comme avec un jeune animal. L'être féminin, citation fin, L'être féminin ne se réduit donc pas au régime du tendre, mais les transgresse. C'est justement dans la société à deux, c'est-à-dire la relation moi-tu, que loge et parfois règne le féminin érotique qui s'avère louche et inquiétant pour le sujet de la maîtrise et de l'appropriation. Quatrième point, une subjectivité au féminin. Point d'interrogation, une subjectivité au féminin. On peut cependant se demander si cette maîtrise a jamais existé, si les moi s'identifiant à ce poste, sujet de la conscience, n'ont pas toujours été une fiction. Dans cette rencontre érotique avec le féminin comme altérité pure, le sujet a été d'une part contaminé de ce qu'il a peut-être toujours été, féminin et masculin à la fois, c'est-à-dire homme vulnérable, mortel, sensible et exposé. Car en réalité, ces valeurs n'ont jamais été le monopole des femmes. Au-delà de la fable du sujet, nous concevons d'ailleurs que ce n'est pas la femme qui se situerait dans un après-coup, tel que le voudrait toute une tradition monothéiste et philosophique, et le sujet de la conscience, qui par la suite connote forcément tout ce qui se refuse à la conscience et à la représentation, au féminin, voire à la femme. Pris dans ce sens, le féminin défini comme tout autre fait déjà partie de tout être humain et n'est pas l'exclusivité de la femme anatomique, tout comme le masculin ne désigne pas exclusivement l'homme anatomique. Dans un entretien publié en 81, Levinas constatera d'ailleurs lui-même: peut-être, d'autre part, toutes ces allusions aux différences ontologiques entre le masculin et le féminin paraîtront-elles moins archaïques si, au lieu de diviser l'humanité en deux espèces ou en deux genres, elles voudraient signifier que la participation au masculin et au féminin était le propre de tout être humain. Attention, enfin. On peut en déduire que le tout autre n'exige donc pas le tu, mais qu'il fait déjà partie du moi. Celui-ci est d'une certaine manière toujours étranger à lui-même. La singularité, qu'elle soit femme ou homme, est toujours déjà multiple et exposée. Dans les écrits postérieurs à totalité infinie, la notion du féminin n'apparaît plus. Les écrits philosophiques, dans les écrits talmudiques, elle apparaît. L'éros est rarement thématisé. Levinas écrit la responsabilité avant l'éros. Mais on peut constater que la subjectivité porte des traits féminins maintenant, ou plus précisément, des traits que la philosophie désigne traditionnellement comme féminins. Tandis que dans Totalité et Infini, Levinas avait déjà mis l'accent sur les failles du sujet, il insiste dans Autrement qu'être sur une subjectivité qui ne retournerait pas au sujet substance, à la structure du sujet. À la recherche d'une phénoménologie non égologique, Levinas destitue le sujet in extenso. Il n'y a plus de sujet de la conscience, mais une subjectivité qui est entièrement pensée à partir de l'autre et pour l'autre. Il s'agit d'une subjectivité du recevoir, de l'accueil hospitalier infini. Cette subjectivité accueille plus qu'elle ne peut contenir, et ceci malgré elle, avant tout choix préalable. Elle ne se définirait donc pas par la conscience qui saisit son objet, mais par la vulnérabilité, par une ouverture radicale qui déstructure l'opposition intérieure-extérieure. Cette subjectivité existe seulement dans la mesure où elle est affectée par l'autre dont l'appel précède l'identification à soi. La responsabilité devant la loi la commanderait, mais cette loi n'aurait d'autre contenu que celui de la préséance de l'autre. Levinas écrit: c'est une notion de la subjectivité indépendante de l'aventure du savoir et où la corporité du sujet ne se sépare pas de sa subjectivité qui s'impose. La subjectivité de chair et de sang dans la matière n'est pas pour le sujet un mode de la certitude de soi. Citation fin. Plus radicalement que dans les écrits antérieurs, le moi est ici pensé comme passivité absolue de soi, événement qui dépossède de ses moyens. La subjectivité éthique est à la fois hors sujet et unique par le fait qu'elle est pour l'autre. Cette subjectivité porte des traits que la philosophie qualifie traditionnellement de féminins, comme par exemple vulnérabilité, sensibilité, hémorragie pour l'autre. Il s'agit d'une subjectivité en rupture d'essence, maternité, se caractérisant par le gémissement des entrailles et, reconnaissons-le, par le sacrifice. La figure de l'autre dans le même, fil conducteur de ce livre, invite à penser l'exposition à l'autre comme dépaysement radical, ne permettant plus de retour à une identité ou à un lieu. Il s'agit de l'accueil hyperbolique de l'étranger et de ce qui est étranger à soi. La subjectivité témoigne d'une dénucléation du moi et ne renvoie pas à un moi identique à soi, mais à un soi comme fissibilité. Il n'y a pas d'identité du moi à soi, la subjectivité est le même traversée par l'autre. Lévinas la caractérise par la passivité, la blessure, la fragilité, la faiblesse, la susceptibilité. Totalité infinie met l'accent sur la paternité pour évoquer un sujet vivant dans le temps de la fécondité, tandis qu'autrement renvoie à l'obligation issue du passé pré-originel par la maternité. La subjectivité maternelle est la figure de l'hospitalité et l'analogant de la subjectivité éthique dans Autrement qu'être. La maternité serait le dispositif du sujet otage parce que celui-ci est réceptivité avant tout acte conscient, c'est-à-dire dans l'impossibilité de se refermer de l'intérieur, toujours déjà dans une incessante alignation par l'autre qui lui est confié l'hospitalité. Lévinas reprend la figure de la femme enceinte puisqu'elle est à la fois étrangère à elle-même et accueille de l'étranger. Lévinas distingue cette maternité de la maternité naturelle. Elle serait plutôt que nature, anarchique, c'est-à-dire sans arché, sans origine, comme l'être féminin dont la demeure de totalité ne désigne pas forcément une femme biologique, la subjectivité maternelle dans Autrement qu'être ne serait pas forcément une mère biologique. Malgré cette distinction, la maternité telle que la conçoit Lévinas est vouée au sacrifice et à la douleur. Il s'agit ici d'une réduction périlleuse, étant donné que la maternité inclut, à mon sens, aussi bien la joie que la souffrance, la domination que l'assujettissement, l'irresponsabilité que la responsabilité. C'est à travers la figure maternelle que Lévinas constate la défaillance de l'ontologie et la ruine de la représentation, qu'il refuse les contradictions et les oppositions. S'il utilise des métaphores féminines, il ne s'agit pourtant pas d'un usage métaphorique traditionnel, puisque la métaphore ne renvoie plus à l'image, ne reflète plus la division entre monde propre et figuré, mais désigne l'altérité d'un passé qui n'a jamais été présent, immémorial. Intensité multiple hors sujet. Si nous avançons que cette subjectivité s'écrit au féminin, cela est seulement vrai dans la mesure où elle se caractérise par des propriétés que la philosophie occidentale a généralement accordées à la femme comme à son autre, au non viril, au non masculin et notamment à la mère. Appeler tout cela féminin exige donc une certaine prudence et hésitation puisque cette notion ne renvoie effectivement pas à des propriétés qui seraient l'exclusivité des femmes anatomiques mais à ce qui marque et affecte tout être vivant. Les remarques de Jean-François Lyotard semblent aller dans ce sens lorsqu'il explique « Les différences qui constituent la sexualité ne sont pas l'opposition politique du corpus sociens et du corpus sociandum, mais traversent chaque corps propre, soi-disant individuel, qu'il soit anatomiquement mâle ou femelle. » Citation fin. La notion du féminin est ancrée dans une tradition philosophique qui connote au féminin tout ce qui n'est pas masculin, c'est-à-dire tout ce que l'homme doit réfuter afin d'échapper à la vulnérabilité, à la sensibilité et à l'exposition. Mais il n'atteindra jamais la souveraineté et l'immortalité dont il est en quête. Car l'être humain, qu'il soit homme ou femme, n'est pas tout, ni entité, ni éternel, mais exposé à l'incertitude et à la fragilité de l'instant. Tout le langage est marqué par cette tradition, laquelle, refoulant la finitude de l'homme, invente son sujet et construit des oppositions binaires. Il est certain qu'on ne peut pas y échapper par un pur acte de volonté. Tel que nous l'avons vu, Lévinas n'en est pas libre dans la mesure où ses figures du féminin s'avèrent parfois étrangement symétriques à une tradition qu'il n'a cesse de recuser. Ainsi, la femme est située dans un certain après-coup. La figure érotique dérange l'éthique et n'en fait pas partie. La relation père-fils est privilégiée et la maternité est réduite au sacrifice. Or, Lévinas a le mérite d'instituer le sujet philosophique et de lui restituer les valeurs que la tradition philosophique a qualifiées de féminines. Soulignant, surtout dans ses derniers écrits, que le sujet est toujours traversé par l'autre et qu'il diffère de soi-même, que la maîtrise et la conscience ne sont pas tout. Lévinas rend au sujet, ou plutôt à la singularité, la possibilité de trembler, de montrer sa faiblesse, qui est aussi la possibilité de l'amour comme abondance sans retour, et la possibilité de toute subversion. C'est à cet égard que Lévinas a enrichi la philosophie d'une grande ouverture, qui permet de poser la question de la différence sexuelle et de l'hospitalité autrement, en tenant compte de leur irréductibilité. Voilà. Je termine là.
Vous allez trop vite, hein.
Ah.
C'était dur d'intégrer tout ça. Vous êtes allé plus vite que la dernière fois, alors on arrive pas.
C'était les vacances.
Non, mais c'est vrai, c'est très important, mais... Moi, je trouve que c'est trop dur.
Oui, on peut tout reprendre, on a bien le temps. Comme c'était très vite, il nous reste une bonne demi-heure.
Par exemple, quand il parle de... Je trouve qu'il ne sait pas faire la différence entre l'individu et la personne.
Attendez, on va commencer tout de suite la seule chose, je vous prie, parce que maintenant, on se connaît un peu, vous aurez pu m'interrompre à tout instant, je vous l'avais dit.
J'aurais dû.
Faut interrompre.
Oui, mais je sais pas, j'étais impressionnée.
Ah, ben là, qu'est-ce que je peux dire alors? Il ferait pas... non, mais il faut interrompre, franchement.
Oui, parce que, moi je sais pas, peut-être que d'autres personnes ont complètement assimilé, moi ça allait trop vite pour moi.
Enfin, moi, je vous présente mes excuses.
Je n'étais pas là la dernière fois, donc pour moi aussi, c'était pas évident de me faire des images et dessus tout le temps. Alors, je ne sais pas, après, c'est peut-être une rapidité d'esprit, je suis peut-être particulièrement lente. Non,
oui. Non, mais c'est pas une critique.
C'est... Non, mais c'est une critique et vous avez raison. Voilà, sauf que il faut éviter la répétition, donc la prochaine fois, vous cassez.
Ouais. Ah, ben bien sûr.
Voilà.
Et il y a plein de choses sur lesquelles ce serait bien de revenir lentement,
oui.
Calmement.
On a le temps de revenir tant que vous voulez.
Vous êtes exposé depuis le début, on vous arrête.
Mais, alors, vous allez prendre le micro, vous allez le faire.
En fait, ce que vous disiez tout en conclusion, c'est le caractère très équivoque du féminin chez les féminins.
Oui.
Alors, j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que c'est, quoi? Ces féminins, ce ne sont pas les femmes. Alors, est-ce que c'est un symbole? Est-ce que c'est une représentation? Est-ce que c'est une projection fantasmatique? Est-ce que c'est un outil conceptuel pour les féminins?
Je réponds oui à tout. Oui. Ouais. Oui, c'est un peu de tout. Mais ça ne tient pas seulement à Lévinas. Hein. C'est très, très difficile de parler du féminin et de lier seulement aux femmes, étant donné que le féminin, il y a quand même des valeurs sociales aussi, il y a toute une histoire. Hein, ce n'est pas une qualité qu'on a dès sa naissance, ou en tout cas pas seulement.
Le second de la question, c'est que moi j'ai l'impression que lorsque Lévinas parle du féminin, je l'aurais pu finalement... penser à la question de l'altérité sans pour autant utiliser justement ce dualisme masculin-féminin qui est extrêmement justement glissant et encore une fois équivoque. Est-ce que ça apporte quelque chose à la profondeur de sa pensée, à tout ce qu'il peut dire justement sur la spiritualité, sur la rencontre de l'autre, c'est vraiment une vraie question.
Pourrait répondre très vite et mal, il ne s'agit pas d'un dualisme. Donc la question de l'équivocité est surtout due à cela que ce n'est pas une opposition binaire. Ce n'est pas le féminin d'une part, le masculin d'autre part. D'où le caractère paradoxal. Si c'était un vrai dualisme, hein, comme noir et blanc, ce serait extrêmement clair. Pardon ? Ça, c'est la position de l'homme. Et vous voyez après, par exemple, dans l'autre manquêtre, toutes ces catégories sont déstabilisées.
Et justement, moi, c'est ce passage-là qui est là à voir. Parce que je trouve justement dans ce que je peux penser, c'est quand même, moi, c'est quand même le côté d'Évidas, à la limite, qui ça m'a heurté.
Qu'est-ce qui vous a heurté?
Je trouvais ça assez réducteur et assez, toutes ces critiques qu'on peut faire justement à l'Évidas par rapport à du poids religieux, justement, là, je trouve ressort très fortement dans ce qui est dit là. Par rapport justement au moi et au tu, et en fait, qu'il y a eu après, qu'il y a eu changement et évolution, ben c'est ça que j'aimerais bien voir, c'est ce mouvement, c'est ça que j'ai pas bien compris.
Alors, ce qu'il y a, c'est que dès le début, l'histoire du vous et du tu, c'est une citation, hein, ça c'est pas moi. L'histoire d'animalité aussi, hein, les citations sont les citations. L'ambivalence est là dès le début, hein, parce que déjà, dans totalité, le propriétaire, donc le sujet masculin, doit être reçu pour pouvoir recevoir à son tour. Donc le masculin, c'est pas seulement le pouvoir. Il y a déjà une faiblesse originaire dans le sujet. Maintenant, il y a décrit dans sa position masculine, ce qu'on ne peut pas vraiment lui reprocher. Il décrit à partir d'une position. Et il a eu le courage d'assumer cette position.
Il ne s'en distancie pas. Il se réapproprie toutes les traditions.
Mais apparemment, il ne peut pas se réapproprier.
Comment ?
C'est comme ça reste ambivalent. Ce n'est pas une appropriation.
Moi, je ne vois pas tellement de choses. À partir du moment où le point de vue féminin n'est pas non plus pensé à explorer, que l'asymétrie est pensée forcément, enfin, toujours du point de vue effectivement du sujet écrivain et plus autant que masculin, je veux dire, ça peut se faire.
Peut-être plus facile à écouter pour un homme. Très vite la dernière phrase, par exemple.
Il faut qu'on ose maintenant, mais quand voilà. La femme dit vous allez trop vite. C'est
tout à fait. Tout à fait. Non, mais moi aussi. Hein, moi...
Non, mais nous, on ne devrait pas être soumis comme ça.
Mais par contre, c'était très réjouissant. Toujours. Non, mais la musique que j'entendais pour moi, extrêmement réjouissant.
Je voulais faire un petit commentaire sur la compréhension. C'est-à-dire que. J'ai écouté ça, j'ai rien compris, enfin, d'une certaine façon, j'ai rien compris, mais en même temps, au fur et à mesure que. Parce que c'était beaucoup trop dense, et que. C'est vrai qu'à pratiquement à chaque instant, même, j'aurais voulu arrêter en disant attendez, j'aurais voulu poser 10 questions.
Et à un moment donné. Arrêtez, mais.
C'est pas grave du tout, parce qu'à un moment donné, mais j'en vois aussi d'autres formes de compréhension. Au fur et à mesure que ça circule, ça fait fluidifier des tas d'images. Et on est c'est un petit peu comme si on avait raconté une histoire, pas toujours réjouissante quand même, parce que j'ai quand même cet aspect très 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 inquiétant d'un seul coup. Enfin, c'était très bizarre toutes ces images. Il y avait la femme d'un côté qui était l'intériorité accueillante, la maman avec l'intérieur. On était dans une sorte de primauté de l'accueil, et puis d'un seul coup, elle se déshabillait. Là,
très inquiétant. Ça peut arriver tout ça.
Bon, alors moi j'étais pas, je trouvais ça pas très réjouissant d'un seul coup, cette espèce de truc.
J'aurais préféré la maman.
Je sais pas si j'aurais préféré, c'est pas en termes de préférence, mais enfin disons que là, il y avait des tas, c'était un peu un cinéma, ouais. Enfin c'était un cinéma que j'ai suivi très, très agréablement, mais pas avec une sorte d'anesthésie de position critique intellectuelle. Je pense qu'il y a différentes. D'ailleurs, moi, comme je disais au début, je suis un assidu de ces conférences, je les écoute pas du tout au même degré de compréhension, avec la même approche rationnelle. Donc là, maintenant, il y a place pour plein de questions, mais c'était à peine une étape quand je disais, enfin, reprends l'exposé à chaque instant. Des questions très. Par exemple, là, si j'ai bien compris, il y a le fait d'assumer pleinement que le sujet, le sujet philosophique, comme vous avez dit, philosophant, il est clairement assumé comme un sujet philosophant pensé par un homme, qui se trouvait être Lévinas lui-même. C'est bien ça. Et donc, il y a une prise en charge du fait que. Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, posons des questions extrêmement naïves, est-ce que ça veut dire que les femmes philosophes, et quand on regarde la tradition occidentale, on ne parle pas des masses, mais enfin, on peut penser à une arène, tout, est-ce que ça veut dire qu'une femme philosophe, en raison de sa. En tout cas, par rapport à un sujet philosophant masculin, est-ce qu'il y aurait trace dans sa philosophie, dans son sujet philosophique, de l'altérité radicale que pose Lévinas. Est-ce qu'une philosophie féminine, à supposer que ça existe, aurait une trace de cette radicalité de l'altérité par rapport à un sujet philosophique plus classique qui est celui de l'homme. Par exemple, une contre-question extrêmement naïve qui m'est venue.
Vous êtes rapide.
Non, sûrement pas.
Allant dans son sens, comme ça vous pourrez répondre en bloc, est-ce que le fait que pour les femmes philosophes, il n'y a pas de généalogie, parce que quand on cite tous les philosophes, si on remonte à Platon, tout ça, il n'y a que du masculin qui est donné à penser. Alors, est-ce que des philosophes comme, par exemple, Hannah Arendt sont dans... Comment dire, sont dans une période où elles sont à la fois, elles essaient de mettre un sujet philosophique et en même temps elles n'ont pas, elles sont pas soutenues par tout ce qui s'est passé avant elles. Mm-hmm. Pas en termes du contenu, mais en termes de, comment je dirais, de constitution du sujet philosophique. Mm.
Ce sont des questions très importantes, mais je pense qu'il faut effectivement commencer par ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire la différence entre individu et sujet. Pour commencer par ça, le sujet philosophique n'est pas la même chose que l'individu philosophant. Ça n'a rien à voir. Le sujet philosophique est une construction.
Une abstraction.
Une construction, une vraie construction, c'est-à-dire c'est celui qui se laisse guider par sa conscience uniquement par elle et qui a la maîtrise de toute chose et qui pense qu'il peut avoir la maîtrise de toute chose et les pouvoirs. Hein. Lévinas, pour revenir à vous, dans ce sens-là, n'est pas un sujet philosophant. C'est un individu, c'est un philosophe. Et justement, là où je pense, on ne peut pas reprocher à Lévinas ne pas avoir assumé sa position masculine, ce qui ne veut pas dire que dans cet individu philosophant, qu'il n'y a pas une part féminine. Est-ce que je me fais entendre? Lévinas est un homme. Mais les valeurs féminines ou masculines ne sont pas seulement anatomiques ou biologiques, elles sont aussi sociales. Et il s'agit toujours d'un plus ou moins. Il n'y a pas de femme pure ou d'homme pur, étant donné que c'est l'humain qui est question. Certaines propriétés ont été attribuées aux femmes pour des raisons philosophiques, économiques, politiques, sociales. Et apparemment, le langage n'est pas innocent. Il y a une longue racine de ça. Donc quand vous dites si une femme avait écrit, bon, une seule chose est sûre, une femme n'aurait pas pu écrire ce texte, ça c'est clair. Totalité et infini portent la signature d'un homme, d'une position masculine. Mais à mon avis, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de signer son texte. Là-dessus, moi je défends Lévinas, c'est une position masculine. Maintenant, il a eu l'honnêteté de parler de choses qui ne vont pas tellement de soi, pas non plus à cette période. Là, ce ne sont pas des textes 2000. Hein. Ce sont des textes. Le premier c'est 47, puis après c'est les années 60, 70. Hein, c'est pas ça. Donc là, sans lui, quand même, la possibilité de défendre quelque chose qui est relativement nouveau par rapport à ce que d'autres ont dit. Hein. Si vous prenez les textes de Sartre ou la correspondance de Sartre et de Beauvoir, c'est encore tout à fait autre chose. À mon avis, il n'y a pas de philosophie exempte à un certain phallocentrisme, ou phallologocentrisme, peu importe comment on appelle la chose. Mais ça veut dire que ce n'est pas aussi simple. On ne peut pas dire qu'on est libre de tout cela. Si vous dites, est-ce que ça existe la philosophie féminine? Mais qu'est-ce que ça veut dire? La même question se pose, est-ce que ça existe l'écriture féminine, la philosophie homosexuelle, la peinture de l'animal, hein?
Oui, par exemple, comme le Deuf.
Non, mais on trouve toujours dans des textes une certaine signature. Hein? Même suite à la mort de l'auteur, on trouve dans les textes une certaine signature. Et là, c'est une signature masculine. Et ça, pour vous répondre à vous, n'est pas un reproche à la religion de Lévinas.
Non, mais ce que j'aime plus, c'est que cette question d'affaire de l'actualité, ce point de vue où l'actualité pure du Lévinas, dont vous avez parlé, là, moi, il y a un enchaînement là, mm-hmm. J'ai pas bien compris.
Ah, vous voulez dire entre l'altérite pure et puis après quand il laisse tomber la notion dans autre manquette.
Comment ce cheminement-là s'est fait? C'est ça que je veux comprendre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un chaînon qui manque. Et, en plus, vous avez dit, il ne faut pas le revoir par rapport à une dualité. Le fait n'est pas du tout dans l'ordre de la fusion. Mm-hmm. Mais comment...
C'est une relation asymétrique dans les
premiers. En fait, le féminin n'est pas la femme. Enfin, c'était pas de cet ordre-là. Comment cet enchaînement se fait? Vous dites qu'après il a évolué une certaine idée. Le dernier texte que vous pouvez citer, on voit bien que c'est bien plus justement qu'il y a du féminin, qu'il y a du masculin. Mais moi, cette notion d'altérité pure, je ne la comprends pas bien.
Pour Lévinas, la notion d'altérité pure est devenue elle-même un problème à partir de certains textes. C'est donc une écriture qui est en évolution permanente. Il ne s'agit pas seulement des deux livres, parce que finalement, les deux livres comportent des articles qui ont été publiés, après ils ont été rassemblés, donc il n'y a pas un grand fossé temporel entre les deux œuvres. Il y a eu des critiques, et Lévinas était toujours extrêmement accueillant par rapport aux critiques aussi, donc il a évolué dans un autre sens. Lui, il appelait ça quitter le terrain de l'ontologie. C'est-à-dire donner lieu à un désaxement de la phénoménologie, aller plus loin, destituer plus radicalement. Autrement qu'être, par exemple, porte cette dédicace aux victimes du nazisme. Et pour Lévinas, c'était essentiel de parler dans ses livres, par exemple, d'une reconnaissance d'une faiblesse qui est féminine, mais qui nous constitue tous, d'une vulnérabilité. Et sans cette reconnaissance-là, on ne peut ni survivre ni se révolter. Ça, c'est essentiel dans l'évolution.
Je pourrais peut-être aussi manifester une incompréhension dans certains points de l'articulation, il me semble, hein, parce que, il semble, dans ce que vous avez dit, qu'il y avait, si j'ai bien compris, trois expériences fondatrices ou fondamentales de l'altérité radicale, qui étaient, si j'ai bien compris, la mort, dont, en fait, il me semble, vous n'avez pratiquement pas parlé ensuite. Puis le visage, qui était plutôt l'exposé de la dernière fois, enfin le visage comme expérience d'une altérité qu'on ne peut jamais surmonter, enfin qui est une espèce d'étrangeté radicale, si j'ai compris. Puis tout ce qui a été dit sur le féminin. Mm-hmm. Et j'ai pas compris si c'était trois modalités de la même chose, trois modalités d'altérité radicale. J'ai pas bien compris. S'il y avait une relation ou pas entre la mort, le visage de l'autre, la femme, et j'ai pas du tout entendu ensuite que vous avez fait de la mort.
La mort, c'est très intéressant. Hein. Moi, je peux pas dire que j'ai rien contre la mort, par contre. Mais bon, c'est très intéressant, mais c'était vraiment pas un exposé sur la mort. Hein.
Non, mais c'est parce que vous l'avez mentionné à un moment donné.
Oui, mais j'ai mentionné plein de choses que j'ai pas développées après. Je vous conseille d'acheter mon livre. Non, sérieusement, je plaisantais, c'était donner une riposte un peu trop aiguë.
Entre le visage et le féminin, ça m'attache.
Oui, bien sûr. Non, j'ai essayé, mais c'est dur. C'est une question qui est très très importante, mais c'est dur d'y répondre. C'est pour ça que j'ai essayé de m'en tirer par la plaisanterie qu'on fait au cinéma, mais là je vais faire du réel, vous allez voir. Donc, ce qu'il y a, c'est simplement que si vous prenez. Une des grandes visées de toute une tradition philosophique occidentale, c'est quand même surmonter la mort. Hein. Faire comme si on était éternel. C'est aussi ne pas être tombé dans le piège d'un certain érotisme où l'homme pourrait être maîtrisé ou être faible. Et le visage, on peut être menaçant parce que c'est celui de quelque chose qui est différent de nous. Ces trois points ont été un peu comme les orphelins de la philosophie. C'est pas que la philosophie s'en est jamais occupée, hein, mais c'était pas vraiment une prise en compte. Vous savez aussi que Lévinas est un élève de Heidegger, même s'il s'est beaucoup distingué de Heidegger par la suite. Donc, penser la finitude, pour lui, c'est essentiel, mais je ne peux pas vivre ma propre mort. La mort n'est pas une expérience. Je ne peux pas vivre ma propre mort. Je peux craindre la mort, mais la mort qui m'aide la plus proche, c'est celle d'autrui. Je peux perdre ceux que j'aime. C'est pas une expérience non plus, parce que c'est pas moi qui meurs. Mais la seule certitude que je vais mourir aussi, c'est parce que les autres meurent. Donc je suis préoccupé par la mort d'autrui, de l'autre. La mienne, je peux pas la vivre. Je ne peux pas posséder ma mort. Je ne peux pas la dater. Je ne peux pas la prédire. Le visage, je ne peux pas non plus le posséder. Et le féminin, apparemment pas non plus. Dans ces trois situations, Il n'y a plus de pouvoir. C'est ça ce qui les lie. Et c'est ça les points cruciaux dans la philosophie de Lévinas, ce sont ces points-là.
Moi, je ne peux pas poser la question, mais je n'ai pas du tout accaparé des questions.
Pas du tout.
La question que ça me pose, c'est qu'il y a une autre articulation qui se fait dans votre réponse entre actualité et pouvoir. Et vous avez introduit une notion très, très importante qui est de reformuler l'altérité, enfin, la radicalité de l'altérité comme l'impossibilité de s'approprier ou de posséder.
Mm-hmm.
Et c'est une définition quand même assez restrictive de l'altérité radicale. C'est un des symptômes de l'altérité radicale, de ne pas pouvoir s'approprier, de ne pas pouvoir posséder. Il me semble que l'altérité radicale, ça dit plus que l'impossibilité de s'approprier. Il y a eu un transfert de la notion de pouvoir, enfin vous n'avez pas dit appropriation, de pouvoir. Vous voyez, je ne sais pas si je suis clair dans ma question.
Non, mais développer.
Je sais pas, il y a plein de choses, il me semblait que je ne suis pas du tout philosophe, mais il me semblait que chez Heidegger, la mort était un peu pensée comme le possible de l'impossible. Enfin, en tout cas, sa propre mort, c'est
l'impossibilité du possible.
Ou l'impossibilité du possible, plutôt de dire comme ça, ou la possibilité de l'impossible, c'est dans les deux sens. Donc là, justement, ça devient une sorte de... reposer d'autres questions. En fait, je ne suis pas du tout de cinéma, j'essaie de suivre. Alors, je passe le relais à d'autres questions, je vais voir si j'arrive à reformuler ce que j'ai envie.
Moi, c'est sur la partie, quand vous avez dit, la partie inhumaine, de l'animalité.
J'ai dit non humaine parce que je voulais pas dire inhumaine.
Oui, mais
c'est encore autre chose.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de. J'arrive pas à comprendre avec. Par exemple, quand on compare tout ce qu'il dit sur la caresse, qu'on puisse à un moment dire qu'il y a une part non humaine.
Parce que vous pensez que. J'essaie de vous comprendre.
C'est très ludique. Moi, j'ai écouté le rabbin Wachnin, il raconte. Mm-hmm. Il a fait un livre entier sur la caresse.
Oui, et sur Lévinas, sur l'érotique.
C'est justement cette non-prise de pouvoir. La caresse ne prend jamais.
Mm-hmm.
Elle est tout le temps en prise. Mm. Mais cette part non humaine, moi, je n'arrive pas à comprendre ça.
Mais Lévinas ne dit pas... Enfin, commençons plutôt par vous. Oui. Pensez-vous que la caresse est le monopole de l'humain?
Ben oui. Dans l'intentionnalité.
Voilà, par exemple.
Comment ?
On peut caresser un chien ?
Oui, mais lui, est-ce qu'il...
Oui, mais ça reste une caresse, non ? Est-ce qu'on peut, vous pourrez se mettre d'accord sur ça ? Ou est-ce qu'on peut caresser un animal ? Et ce qui serait encore plus intéressant, est-ce qu'il y a des animaux qui se caressent ?
Les singes,
hein, les chimpanzés. Les chats, d'une certaine manière aussi, oui.
Oui, mais c'est plus...
Et puis nous, quand on caresse un chien, on n'est pas un chien.
Bah voilà, oui.
Donc c'était par rapport à la femme, où on disait cette part non humaine, qui est moi j'ai compris, qui est animale.
Lévinas lui-même, c'était dans la citation, dit que dans l'expérience érotique, hein,
oui.
La femme érotique... ressemble à un jeune animal. Et qu'on peut, à ce moment-là, jouer avec comme un jeune animal. Elle perd donc, dans ces moments décisifs, c'est comme si elle perdait son visage érotique à la mesure où son visage ne signifie plus rien. Il ne signifie plus la hauteur et le respect.
Mais est-ce que ça, c'est pas...
Et puis, il dit animalité. Ça, c'est lui qui le dit, pas moi. Moi, et puis, par les sorcières de Shakespeare... Et moi, j'en rajoute et je me dis, bon, est-ce que à ce moment-là, est-ce qu'il y a une part non humaine? Je ne dis pas inhumaine pour la simple raison que le terme inhumain, c'est carrément encore autre chose. Ce serait de l'ordre de la cruauté, de la bestialité, etc. Non humain, parce qu'il y a forcément un certain contenu, une teneur qui distinguerait ce visage altéré ou érotique de l'humain. Ou est-ce que ça fait encore partie de l'humain? C'est une question très difficile.
Voilà.
Très, très difficile.
Sauf le problème, c'est qu'il nous dit justement de la femme. Alors qu'on peut très bien dire de tout être humain dans l'amour, qu'il soit homme ou femme.
Il dira dans Autrement qu'être, il appelle le même visage qu'il a appelé visage érotique, et donc c'était la présence féminine, il va l'appeler visage altéré. Et là, ce ne sera plus uniquement la femme. Et moi, je lui avais demandé pourquoi, justement, la femme, et il m'a répondu qu'il parlait des expériences qu'il avait. Et là-dessus, il était très, très droit et très sincère.
Mais à ce moment-là aussi, d'accord, mais c'est facile comme réponse, je veux dire, en ce sens-là, justement, il endosse complètement, justement, toute une tradition montrant que la femme, du côté de la
liberté. Du côté sorcière, presque, hein, qui est
une femme. Et ça, c'est. Moi, c'est toujours un truc qui m'étonne. Enfin, chez quelqu'un, par ailleurs, je respecte totalement justement la philosophie. Enfin, que dès qu'on aborde justement cette question du genre de sexe, il y a quand même des images justement éculées, des préjugés, des trucs qui traversaient justement l'histoire, qui sont des constructions culturelles du masculin et du féminin, qui reviennent justement en masse.
Tout à fait.
Sans aucune distance.
Sans aucune distance, ça je ne dirais pas, mais c'est une tradition qui est assez lourde. Si vous analysez le langage, c'est très très difficile de s'en sortir. Hein. C'est pas par un geste de volonté, c'est pas en tout cas, à mon avis, et ça se discute, c'est pas par un renversement des catégories qu'on va s'en sortir. Et surtout pas par rapport à une philosophie féminine.
En tout cas, par une
décomposition. On va perdre à ce moment-là, complètement. Pardon ?
Non, on en sort aussi par une déconstruction critique des catégories. Par le fait de dire même que ce sont des catégories, on essaye de s'en servir de façon un peu distanciée.
Mm-hmm.
Enfin, c'est la tâche commune, c'est aussi la demande de ce philosophe. Enfin, la demande de ce philosophe, c'est ça. C'est d'avoir de permettre justement cette déconstruction, cette.
Et il n'a pas appelé déconstruction, et ça aussi, ça l'honore, parce que depuis, je me rappelle très bien, quand Derrida était vivant, personne n'avait le droit de dire déconstruction. Maintenant, il est mort, tout le monde parle de déconstruction. Donc, il faudrait voir déjà de quoi on parle. Ce qu'il a essayé de faire, Lévinas, c'est de procéder à une ouverture des concepts et des notions, et il les a renversés et destitués jusqu'à un certain point. C'est pas la même méthode que Derrida.
Comment est-ce qu'il a été lu, lui, par Derrida et par Lacan?
Oh, ben je vais revenir pendant 6 semaines. Donc ça c'est très difficile, c'est très intéressant. Il y a eu un article que Lévinas lui-même a appelé un meurtre sous anesthésie. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir que vous avez parlé d'anesthésie. Dans l'écriture et la différence, c'est un article qui est très 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 long, qui est sorti en livre de poche. Point. Et puis après, il y en a un autre qui est apparu en ce moment, Me voici, de Derrida, qui est apparu édition Galilée. Ça, c'était en 81, je pense. Qui reprend justement Autrement qu'être. Le premier, c'est Totalité infinie. Le deuxième, c'est Autrement qu'être. Et Derrida était à la fois très proche et très distancé de Lévinas. Hein. C'est à la fois. Les derniers livres de Derrida sur Lévinas, c'est Adieu. Donc ce très beau discours qu'il a fait pour son enterrement, enfin une fois qu'il est, je pense que c'était 3 jours après sa mort, et c'était à la fois il portait une admiration infinie à Lévinas. Moi, je pense pas que l'œuvre de Derrida serait possible sans Lévinas, ça me paraît plutôt impossible. Mais à la fois, il s'est distancié aussi, hein, ça c'est clair.
Et du côté de Lacan.
Du côté de Lacan, il n'y a aucun rapport, enfin, il n'y a jamais, à mon savoir, hein, sauf si certains le trouvent, moi je serais bien contente de voir ça, il n'y a pas eu de référence, pas de rapport du tout, il n'y a aucune correspondance, il n'y a aucune citation, je n'ai pas trouvé de citation, aucune. Par contre, il y a des gens comme Hassoun, Pierre-Laurent Hassoun, qui a beaucoup, qui a fait des séminaires sur ce rapport et qui a aussi écrit sur ce rapport. Parce qu'on ne peut pas dire non plus que Lévinas est complètement. Il sait quand même ce que c'est la psychanalyse. Hein. Il en tient compte aussi d'une certaine manière. Mais selon Lévinas, il ne s'agit pas de faire. Selon lui, l'inconscient n'est pas un mathème. Hein. il faut surtout pas que les gens se normalisent. Je dis ça très vite, et là, effectivement, c'est trop simple, mais c'est difficile aussi à répondre précisément. Ce que Lévinas reproche à la psychanalyse, c'est de normaliser les individus.
Oui, là, c'est un peu...
Maintenant, c'est pas non plus Deleuze, hein. Lévinas n'est pas Deleuze. C'est pas la même chose, mais c'est pas quelqu'un qui conseillerait une psychanalyse, par exemple. Une cure psychanalytique.
La question, à cause de ce qu'on entend de l'autre.
Mm-hmm. L'autre, le grand autre.
Oui, le grand autre, voilà.
Oui.
Est-ce qu'il y a une connexion entre l'altérité chez Lévinas et le grand autre, chez Lacan?
Il y a Jean-François Lyotard qui a travaillé là-dessus et qui a travaillé énormément sur la passibilité, qui malheureusement nous a quittés avant de pouvoir terminer tout cela. Bon, il y a certainement déjà une grande différence, c'est que pour Lévinas, il y a Dieu même si c'est un Dieu absent, même si c'est un Dieu que nous ne voyons pas et qui n'est pas personnifié. Hein. Pour Freud et Lacan, non. Hein, ça, c'est clair qu'il y a une différence là. Puis surtout, pour Lévinas, la psychanalyse n'est pas philosophique non plus. Hein, se pose pas les mêmes questions. Et là où il y a, à mon avis, des points de rencontre, c'est effectivement au niveau du pas tout, pas tout.
Ben oui.
Hein, ça, c'est certain. C'est certain que voilà.
Quand Lacan dit la femme n'est pas toute, on retrouve dans les textes que vous avez cités de Lévinas
tout à fait.
Le sentiment de quelque chose qui échappe.
Tout à fait, c'est pas tout. Et puis, mais là-dessus, par exemple, on peut se le demander, c'est une question que je prends le risque. Là. Quand Lacan décide de se placer du côté des mystiques, et quand il dit « moi aussi, j'aimerais bien en faire partie », moi aussi, je me place plutôt du côté pas tout », à mon avis, il assume moins sa signature masculine que Lévinas. Parce qu'on ne peut pas se placer comme ça, avec un geste vanté du côté du patou. C'est très gentil, mais ce n'est pas si simple. Mais il y a certainement des points de rencontre, c'est évident. En tout cas, ils avaient tous les deux, ou tous les trois, si on prend Freud, des gros, ils étaient dans un grand embarras avec le féminin, c'est certain. Continent noir, pas tout, ça qui n'existe pas. On pourrait se demander si ça qui n'existe pas, où est le lien entre ça qui n'existe pas et celle qui, du moins pendant certains moments, ne fait plus partie de l'éthique.
Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre exactement,
qu'elle est justement que le masculin et le féminin ensemble, hein, comme valeur, comme attribut, ne font pas un tout, pas une entité. Vous connaissez peut-être ce mythe de Platon avec ces êtres tout joyeux qui s'en rend et qui se roulent partout et sont tellement joyeux. Un jour, ils se disent, tiens, on va vraiment aller dans les cieux, on va détrôner les dieux. Et puis, pof, qu'est-ce qui leur arrive? On les coupe en deux. Et depuis, nous dit Platon, dans le banquet, chacun cherche sa moitié. Alors, il dit, il y avait d'abord ces êtres ronds qui étaient féminins, féminin-masculin et masculin-masculin. Depuis qu'on les a coupés, ils cherchent tous leur moitié. Ben pour Lévinas, on n'est pas Dieu, moitié. Asymétrique, c'est-à-dire jamais nous ne formerons un tout, jamais nous ne serons une entité.
On n'est pas dans une complémentarité. Non.
Tout à fait, pas complémentaire.
Ni la fusion, ni complémentaire.
Et on peut pousser ces choses un peu plus loin. Si on admet que le féminin et le masculin ne sont pas réductibles aux deux sexes anatomiques, hein, ça veut dire que ça, c'est vrai pour tous les couples. Enfin, pour tous les gens qui s'aiment. Peu importe leur appartenance sexuelle et leur choix, leur préférence sexuelle. Et là, ça devient très intéressant parce que vous voyez que je ne vais pas dire toute l'histoire parce qu'il y a quand même eu aussi, comme toujours, des exceptions, mais cette idée fusionnelle de l'amour est une idée très très puissante, une racine très très puissante dans la philosophie occidentale. Il y a toujours quelque chose chez Lévinas qui est, l'un l'échappe quelque part à l'autre, et c'est ça l'intérêt de l'amour d'ailleurs. Un intérêt complètement désintéressé. Parce qu'il ne retourne pas à soi. Il n'y a pas d'Ulysse qui rentre chez Pénélope, qui passe sa vie à tricoter et puis à défaire tout ce qu'elle a fait la nuit. Chez Lacan, pareil, hein, c'est asymétrique, c'est pas un tout. C'est d'ailleurs pas pareil, c'est encore autrement, mais c'est aussi asymétrique.
Il y en a quand même, quand on, ça a été dit, on a le sentiment quand même que Lacan, il connaissait bien l'œuvre de Lévinas.
J'ai jamais trouvé, j'ai rien trouvé, j'ai essayé de trouver.
C'est une qualité Lacan de ne pas citer ses sources.
Oui, on peut se dire que c'est une qualité, ça peut aussi être un désavantage pour nous pauvres créatures qui prennent la scène de prendre la suite.
Il a fallu des années pour qu'on se rende compte de tout ce qu'il a puisé.
Ah ben, j'imagine qu'ils ont baigné un peu quand même dans la même sauce à un certain moment donné. Mais maintenant, aller savoir jusqu'à quel point qui a lu qui, ça c'est très très difficile à savoir. Hein. Ce qui est évident, c'est que Sartre et Lévinas se sont lus. Ça, c'est clair. Mais chez Sartre, par exemple, il y a, c'est une vue beaucoup plus désastreuse de l'amour et aussi du rapport sexuel. Hein. Constamment, quelqu'un qui cherche à s'accaparer la liberté de quelqu'un d'autre, et ça marche jamais, c'est le fiasco. Là-dessus, le rapport sexuel chez Lévinas est beaucoup plus joyeux, dirais-je. Si c'est un critère pour le rapport sexuel, ça. Il faudrait savoir. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou d'autres exposés? Non. Bon, alors la prochaine fois, vous me freinerez.
Ah oui.
C'est promis. Voilà. Bon, merci d'être venu.
Merci beaucoup.